dans la petite rue de Soho, au pavé disjoint, Lucas guettait d'un œil gourmand un balconnet en fer forgé qui ne résistait plus à la tentation de s'effondrer que par la grâce de deux rivets rouillés. La locataire du troisième étage, jeune mannequin au sein trop bien sculpté, au ventre insolent et aux lèvres pulpeuses, était venue s'installer dans sa chaise longue, ne se doutant de rien, et c'était parfait ainsi. Dans quelques minutes, si sa vue ne le trompait pas, et elle ne le trompait jamais, les rivets céderaient. La ravissante se retrouverait alors trois étages en contrebas, le corps disloqué. Le sang qui s'écoulerait de son oreille entre les interstices des pavés soulignerait la terreur peinte sur son visage. Son joli minois resterait ainsi figé jusqu'à ce qu'il se décompose dans une boîte en sapin où la famille de la demoiselle l'aurait enfermé avant de larguer le tout sous une dalle de marbre et quelques litres de larmes inutiles. Un rien du tout, qui ferait au plus quatre lignes mal rédigées dans le journal du quartier, écouterait un procès au gérant de l'immeuble. Un responsable technique de la mairie perdrait son emploi. Il faut toujours un coupable. Un de ses supérieurs enterrerait l'affaire, en concluant que l'accident aurait tourné au drame si des passants s'étaient trouvés sous le balconnet. Comme quoi il y avait un dieu sur cette terre. Et finalement, c'était bien là le vrai problème de Lucas. La journée aurait pu parfaitement bien commencer si, à l'intérieur de cet appartement coquet, un téléphone n'avait sonné et si l'idiote qui l'occupait n'avait laissé son portable dans sa salle de bain. La stupide tête de Linotte se leva pour aller le chercher. Décidément, il y avait plus de mémoire dans un Mac que dans la cervelle d'un mannequin, se dit Lucas, déçu. Lucas serra les dents et ses mâchoires grincèrent, comme celles du camion d'ordures qui descendait vers lui, faisant trembler la rue sur son passage. Dans un claquement sec et franc, l'assemblage métallique s'arracha de la façade et dégringola. À l'étage inférieur, une fenêtre explosa, pulvérisée par un morceau de la rambarde. Un gigantesque mikado de poutrelles de fer rouillé, habitation troglodyte de colonies de bacilles du tétanos, s'abattait sur le pavé. L'œil de Lucas s'éclaira à nouveau. Un longeron de métal aiguisé filait vers le sol à une vitesse vertigineuse. Si ses calculs immédiats se révélaient justes, et il l'était toujours, rien n'était perdu. Il s'engagea nonchalamment sur la chaussée, forçant le conducteur de la benne à ralentir. La poutrelle traversa la cabine de la benne à ordures et vint se ficher dans le thorax du chauffeur. Le camion fit une terrible embardée. Les deux éboueurs, juchés sur leur plateforme arrière, n'eurent pas le temps de crier. L'un fut happé par la gueule béante de la benne et aussitôt broyé par les mandibules qui officiaient, imperturbables. L'autre fut projeté au devant et glissa inerte sur le macadam. L'essieu avant passa sur sa jambe. Dans sa course, le Dodge percuta un réverbère qu'il expédia en l'air. Les fils électriques désormais dénudés eurent la bonne idée de frétiller jusqu'au caniveau gorgé d'eau sale. Une gerbe d'étincelles annonça le formidable court-circuit qui affecta tout le pâté de maison. Dans le quartier, les feux de croisement se mirent en berne, aussi noirs que le complet de Lucas. Au loin, on pouvait déjà entendre les fracas des premières collisions au carrefour abandonné à eux-mêmes. À l'intersection de Crosby Street et de Spring, le choc de la benne folle et d'un taxi jaune fut inévitable. Heurté par le travers, le Yellow Cab vint s'encastrer dans la devanture de la boutique du musée d'art moderne. « Une compression de plus pour leur vitrine !» murmura Lucas. L'essieu avant du camion escalada une voiture en stationnement. Les optiques désormais aveugles pointaient vers le ciel. La lourde benne se tordit dans un bruit de tôle déchirée avant de se coucher sur le flanc. Les tonnes de détritus qu'elle contenait dégueulèrent de ses entrailles et la chaussée se couvrit d'un tapis d'immondices. Au vacarme du drame consommé, succéda un silence de mort. Le soleil continuait tranquillement sa course, vers le zénith. La chaleur de ses rayons aurait vite fait de rendre l'atmosphère du quartier pestilentielle. Lucas ajusta le col de sa chemise. Il avait une sainte horreur que les pans dépassent de son veston. Il contempla l'étendue du désastre tout autour de lui. Il était à peine 9 heures à sa montre. Et finalement, c'était une très belle journée qui commençait. La tête du chauffeur de taxi reposait sur le volant, actionnant le klaxon qui résonnait à l'unisson de la corne des remorqueurs dans le port de New York. Un endroit si joli, quand il faisait beau comme en ce dimanche de fin d'automne. Lucas s'y rendait. De là, un hélicoptère le déposerait à l'aéroport de La Guardia. Son avion décollait dans 66 minutes. Le quai 80 du port marchand de San Francisco était désert. Zofia raccrocha lentement le combiné du téléphone et sortit de la cabine. Les yeux plissés par la lumière, elle contempla la jetée opposée. Un essaim d'hommes s'y affairait autour de gigantesques containers. De leur nacelle, les grutiers, au perché dans le ciel, dirigeaient un balai subtil de flèches qui se croisaient à la verticale d'un immense cargo en partance pour la Chine. Zofia soupira. Même douée de la meilleure volonté du monde, elle ne pouvait pas tout faire seule. Elle avait bien des dons, mais pas celui d'ubiquité. La brume recouvrait déjà le tablier du Golden Gate, dont seuls les sommets des piles dépassaient de l'épais nuage qui envahissait progressivement la baie. Dans quelques instants, l'activité portuaire devrait cesser, faute de visibilité. Zofia, ravissante dans sa tenue d'officier en charge de la sécurité, n'avait que peu de temps pour convaincre les contremaîtres syndiqués d'interrompre leurs dockers payés à la tâche. Si seulement elle savait se mettre en colère. La vie d'un homme devrait pourtant peser plus lourd que quelques caisses chargées à la hâte. Mais les hommes ne changeraient pas si rapidement. Sinon, elle n'aurait pas besoin d'être là. Zofia aimait l'atmosphère qui régnait sur les docks. Elle avait toujours beaucoup à faire ici. Toute la misère du monde se donnait rendez-vous à l'ombre des anciens entrepôts. Les sans-abri y élisaient domicile, à peine protégés des pluies d'automne, des vents glacés, que le Pacifique charriait sur la ville l'hiver venu, et des patrouilles de police qui n'aimaient guère s'aventurer dans cet univers hostile, quelle que soit la saison.
« Manka ! Arrêtez-les !»
L'homme à la carrure épaisse fit mine de ne pas l'avoir entendu. Sur le grand bloc-notes qu'il calait contre son ventre, il recopiait le numéro d'immatriculation d'un conteneur qui s'élevait dans le ciel.
« Manka ! Ne m'obligez pas à dresser un procès-verbal. Prenez votre radio et faites cesser le travail, maintenant !»
reprit Zofia. « La visibilité est inférieure à 8 mètres, et vous savez bien qu'en dessous de 10, vous auriez déjà dû siffler l'arrêt. » Le contremaître Manka paraffa la page et la tendit au jeune pointeur qui l'assistait. D'un mouvement de la main, il lui fit signe de s'éloigner.
« Ne restez pas là-dessous. Vous êtes dans une zone d'aplomb. Quand ça se décroche, ça ne pardonne pas. »«
Oui, mais ça ne se décroche jamais. Manka, vous m'avez entendu ?»
insista Zofia.
« Je n'ai pas une visée laser dans l'œil, que je sache. » bougonna l'homme en se grattant l'oreille.
« Mais votre mauvaise foi est plus précise que n'importe quel télémètre. N'essayez pas de gagner du temps. Fermez-moi ce port tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. »
« Cela fait 4 mois que vous travaillez ici, et jamais la productivité n'a autant baissé. C'est vous qui allez nourrir les familles de mes camarades à la fin de la semaine ?»
Un tracteur s'approchait de la zone de déchargement. Le chauffeur ne voyait plus grand-chose, et ses fourches frontales évitèrent de justesse la collision avec une remorque à plateau.
« Allez, poussez-vous de là, ma petite. Vous voyez bien que vous gênez.
Ce n'est pas moi qui gêne, c'est le brouillard. Vous n'avez qu'à payer vos dockers autrement. Je suis certaine que leurs enfants seront plus heureux de voir leur père ce soir que de toucher la prime d'assurance d'essai du syndicat. Dépêchez-vous, Manka. Dans 2 minutes, je vous dresse une assignation personnelle au tribunal et j'irai plaider moi-même devant le juge. »
Le contremaître dévisagea Zofia avant de cracher dans le port.
« On ne voit même plus vos ronds dans l'eau, » dit-elle.
Manka haussa les épaules, s'empara de son talkie-walkie et se résigna à ordonner l'arrêt général des activités. Quelques instants plus tard, 4 coups de trompe résonnèrent, immobilisant aussitôt le balai des grues, des élévateurs, des tracteurs à sellette, des cavaliers, des frontaux et de tout ce qui pouvait se mouvoir autour des quais ou à bord des cargos. Au loin, dans l'invisible, la corne de brume d'un remorqueur répondit à l'arrêt de l'activité.
À force de jours chômés, ce port finira par fermer.
Ce n'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps, Manka. J'empêche juste vos hommes de se tuer. Arrêtez de faire cette tête-là. Je déteste quand nous sommes fâchés. Je vous offre un café et des œufs brouillés. Venez.
Vous pouvez me regarder tant que vous voulez avec vos yeux d'ange, mais je vous préviens, à 10 mètres, je remets tout en route.
Dès que vous pourrez lire le nom des bateaux sur leur coque. Allez, venez.
Le Fisher's Deli, meilleure cantine du port, était déjà bondé. À chaque brouillard, tous les dockers s'y retrouvaient pour partager l'espoir d'une éclaircie qui sauverait leur journée. Les anciens étaient attablés au fond de la salle. Debout au comptoir, les plus jeunes se rongeaient les ongles en tentant de deviner par-delà la fenêtre la proue d'un navire ou la flèche d'une grue de bord, premier signe d'une amélioration du temps.